Chantal Doré au micro d'Au fil du temps. Comment allez-vous? Nous sommes toujours plongés dans ce fameux défi 28 jours de la COVID. Comment vous tenez le coup? Moi, personnellement, je vous dirais que venir animer cette émission-là avec vous une fois par semaine, voir Maurice, l'autre bord du plexiglas qui m'accompagne pendant toute l'heure, croiser notre recherchiste Catherine Bourderon, ça me fait le plus grand bien, car autrement, je suis en télétravail la majorité du temps. Et pour me plaindre un petit peu, nous sommes dans des travaux d'infrastructure dans ma ville, alors je suis en situation de en bon français, de shakage de maison à longueur de journée. Là, j'ai l'impression d'être dans un tremblement de terre perpétuel, donc ça me fait du bien d'être ici et de ne pas subir tous ces tremblements. Cette fameuse COVID-là, elle a mis en lumière une situation sur laquelle on avait reçu plusieurs alertes, mais qui tout à coup est devenue vraiment à l'avant-plan. Tout ce qui se passe dans les CHSLD. Je n'ai pas personnellement de proche qui est en CHSLD ou encore qui vit la situation, mais bon, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais je suis de tout cœur compatissante si c'est votre cas, si vous avez un parent qui est en CHSLD, un oncle, une tante. Donc, je me suis dit, tiens, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer et comment à l'avenir on pourrait faire pour améliorer l'état des CHSLD, les soins, le recrutement également là, des préposés aux bénéficiaires. Donc, je reçois en premier bloc d'Au fil du temps le sociologue, professeur François Aubry, co-auteur de « Les organisations de soins de longue durée », point de vue scientifique et critique sur les CHSLD. En deuxième bloc d'Au fil du temps, nous allons parler des saisons. Oui, c'est un thème que j'aime beaucoup étant une fille de rituel. Et après la flamboyance des couleurs, nous sommes maintenant à l'étape des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, comme dans une fameuse chanson classique. Et j'avais envie qu'on s'interroge sur le sujet des saisons. J'ai donc réinvité Mitsiko Miller, qui était avec nous il y a quelques émissions et qui, ma foi, m'a assez ravie avec ses nombreuses réflexions sur les liens de filiation, entre autres. Alors, c'est ce qui nous attend au programme d'Au fil du temps cette semaine. Et pour lancer cette émission, Maurice nous a suggéré une chanson qui s'appelle « À ta santé », qui vient de « Rage Against », non pas de « Machine », mais « Rage Against » de « Marmotte ». Alors, écoutez bien ces paroles, mais c'est toujours les meilleurs qui vont glisser les premiers. Une place pour toi dans ma mémoire, dans la tristesse des au revoir, et encore un verre à ta santé.
Y'a des bons gars sur les chemins, mais des comme toi pas beaucoup. 30 balles et encore un gamin qui a porté sa vie jusqu'au bout. Avec marqué sur le cœur, je vivrai au jour le jour. Mais dans l'ivresse et la douceur, tabarque c'était que de l'amour. Toi t'as vécu sans argent, tu t'en foutais d'être le plus beau. T'avais pas toujours un logement et pas tous les soirs un repas chaud. Mais un sourire pour un soleil soulage ton fardeau. Des éclats de rire sans pareil, la vie c'est court et tellement beau. C'est court et tellement beau. Mais c'est toujours les meilleurs qui vont glisser les premiers. Une place pour toi dans ma mémoire, dans la tristesse des au revoir. Et encore un verre à ta santé. Compte sur moi l'ami, compte sur moi. Ce sera pas le dernier. Et tu vogues de ville en ville sans te poser trop de questions. Pas de matériel inutile et pas de soucis dans ton baluchon. Faire un bout de route avec toi pour voir autrement la vie. Même guidé par le chacun pour soi, tu répondais à cette folie. Que vivre pauvre, ça coûte pas cher. Ouais, c'est comme le calme au lever du jour. Et c'est pas pire que les sales manières. monde en sursis qui nous entoure. Voilà que tu glisses loin de nous. Maintenant tu vis dans nos mémoires. Une place au soleil chez les fous. Entre nous y a pas de distance. Ici on peut rêver. Une terre d'asile pour tes grandes vacances. Dans ma tête y a pas de juge pour t'enfoncer. Y a pas de règlement, pas de condamné. Mais c'est toujours les meilleurs qui vont glisser les premiers. Une place pour toi dans ma mémoire. Dans la tristesse des au revoir. Et encore un verre à ta santé. Compte sur moi mon frère, compte sur moi. Ce sera pas le dernier.
C'était « À ta santé » de Rage Against the Marmotte. Alors, pour parler de la situation dans les CHSLD, je reçois François Aubry, qui est professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, ainsi que chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il co-dirige l'ouvrage « Les organisations de soins de longue durée », point de vue scientifique et critique sur les CHSLD et les EHPAD. Bonjour, Monsieur Aubry.
Bonjour.
Ben, d'abord, j'aimerais ça que vous nous brossiez un portrait des structures d'accueil pour les personnes âgées, parce que en lisant votre livre, je me suis rendu compte à quel point les aînés sont beaucoup à domicile et que finalement, il y a très peu d'aînés qui se retrouvent dans les CHSLD. Donc, pouvez-vous d'abord nous brosser un peu un portrait là, de la situation?
Oui, bien sûr. Alors, dans le fond, c'est certain que la majorité, on va dire, des aînés, si on prend une convention de 65 ans et plus, se retrouvent à domicile. Hein. On dit que c'est à peu près 85-86% de ces personnes-là qui sont à domicile. Ensuite de ça, on a les résidences privées pour aînés, qui sont donc des structures privées avec des logements et souvent avec des services qui sont donnés à la personne. Et on compte environ 10% des 65 ans et plus. Et enfin, après, on tombe dans ce qu'on appelle l'institutionnel, c'est-à-dire vraiment des organisations dans lesquelles il y a un haut degré de service qui est fourni, notamment de soins infirmiers. On a ce qu'on appelle les ressources intermédiaires. Elles sont très peu nombreuses, hein, c'est environ 1% de la population 65 ans et plus. Et enfin, les centres d'hébergement qui peuvent être privés ou qui peuvent être publics, mais très largement publics au Québec. Et là, c'est environ 3-4% des aînés 65 ans et plus, là. Donc, on retrouve dans les centres d'hébergement aujourd'hui, c'est-à-dire en 2020, majoritairement des personnes âgées de 85 ans et plus, en fait, qui présentent des comorbidités, donc des problématiques de santé croisées, souvent cognitives et physiques, et qui nécessitent un soutien constant, c'est-à-dire un nombre d'heures soins vraiment important au fur et à mesure donc de leur vie.
Et les EHPAD, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, en fait, c'est parce qu'on voulait faire une comparaison entre la situation des CHSLD québécois tels qu'on les connaît, puis EHPAD, c'est-à-dire EHPAD, c'est-à-dire établissement de personnes âgées dépendantes ou d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ce sont des centres d'hébergement en France. On avait des chercheurs en France là qui voulaient participer à l'écriture de l'ouvrage collectif et qui ont donc présenté des chapitres. Et on a comparé d'une certaine manière la situation en France et au Québec pour démontrer à quel point on pouvait avoir des constats parallèles et comparables entre les deux contextes là.
Ben justement, après la pièce musicale là, qui va séparer notre entretien, je sais que vous abordez dans votre livre l'innovation dans les soins palliatifs en France. Donc, je voudrais vous entendre sur le sujet. Mais d'abord, avant tout, c'est sûr que la situation des CHSLD a été probablement la première indignation chez les Québécois en lien avec la COVID. Je pense que là, on voyait clair sur une situation qui pourtant était... il y a eu des lanceurs d'alerte sur cette situation-là depuis longtemps. On le savait, tous les manquements qu'il y avait là, mais là, ça a été mis en lumière. Pouvez-vous nous parler un peu de... En fait, qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi... Ce n'était pas autant à l'avant-plan. Pourquoi il a fallu la COVID pour que ça soit autant mis en lumière?
Alors, il y avait quand même certains éléments qui mettaient en lumière ces enjeux-là. Les médias revenaient fréquemment sur des problématiques qui vivaient dans les centres d'hébergement, des cas de négligence ou de maltraitance. On avait aussi beaucoup les syndicats qui rapportaient des problématiques de santé psychologique et physique chez le personnel. Donc, on avait quand même une certaine idée des enjeux qu'il y avait. Et en termes de recherche, c'est sûr qu'il y en avait assez peu. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a décidé de publier un ouvrage sur le temps d'hébergement. Peu de recherches avaient été effectuées sur ce milieu-là en particulier. Mais quoi qu'il en soit, un des enjeux majeurs qu'il y avait, en fait, il était double. Le premier portait, et porte toujours d'ailleurs, sur la qualité de vie qui est donnée aux résidents dans ces centres d'hébergement-là. Et l'autre porte sur la situation des travailleurs, et plus particulièrement des préposés aux bénéficiaires qui forment le volume de main-d'œuvre le plus important en centre d'hébergement. Alors, du côté de la qualité de vie, on avait, et ça on le savait, un certain nombre d'enjeux en termes de bris de service. C'est-à-dire, dans le fond, on promettait que les centres d'hébergement étaient un milieu de vie, devaient être un milieu de vie. Il fallait que les personnes au centre d'hébergement soient comme chez elles. Ça, c'est des orientations ministérielles du Québec qui datent de 2003, qui venaient préciser cette espèce de virage milieu de vie qui devait avoir lieu. Finalement, à force d'études et à force d'observations, on s'est rendu compte que c'est quand même... assez rare l'idée qu'un centre d'hébergement est un milieu de vie. On ne respecte pas adéquatement finalement le choix et les besoins des personnes. Si on prend un cas très concret, si une personne veut être levée à 9h du matin plutôt qu'à 7h, elle n'aura pas toujours le choix de se lever plutôt à 7h qu'à 9h, pour des raisons organisationnelles par exemple. On sait aussi pour le deuxième bain, au temps où Gaëtan Barrette était ministre de la Santé, il y avait tout cet enjeu autour du deuxième bain, qu'une personne qui voulait un deuxième bain pouvait en avoir un. Finalement, même aujourd'hui, on se rend compte qu'il est loin d'être évident qu'une personne ait son deuxième bain, et même avant la COVID. Donc, il y avait cet enjeu-là du point de vue des résidents pour la qualité de vie. Et puis, des enjeux à peu près aussi importants pour les personnels de santé, notamment les préposés, en termes d'attraction, de rétention et de santé au travail de manière générale. Voilà.
Parce que je sais, justement, dans votre livre, vous dites qu'on n'a peut-être pas su trouver la manière de rendre ce métier-là, qui est pourtant si essentiel, et on l'a vu clairement, avec beaucoup d'acuité, qu'on n'a pas toujours su rendre ça accessible, intéressant et attractif pour ce personnel-là.
C'est certain. Le métier de... En fait, le centre d'hébergement est déjà un milieu peu attractif pour n'importe qui. C'est pas toujours loin de là de quitter de cœur qu'on va intégrer un de nos proches dans un centre d'hébergement ou qu'un proche va intégrer un centre d'hébergement. Pour les travailleurs, là aussi, il y a comme... notamment les préposés bénéficiaires, il y a comme une sorte de pas de honte, mais de mésestime relatif au fait de travailler dans un centre d'hébergement, parce qu'on sait que ce sont des personnes en très très forte perte d'autonomie qui vivent dans ces milieux-là. Et puis aussi, de manière générale, le métier de préposé bénéficiaire a jamais tellement été valorisé, là, surtout dans les dernières années, que ce soit en termes de salaire, en termes de conditions de travail, en termes de précarité d'emploi. Et ça a un peu évolué, si j'ose dire, grâce à la COVID, me permettant de le dire comme ça. Mais même là, il y reste encore beaucoup de chemin à faire.
Qu'est-ce qui se passe là avec cette nouvelle cohorte-là qu'on nous a promis, le recrutement qui a été fait quasiment en direct à la télévision?
Oui, c'est des nouvelles cohortes de préposés aux bénéficiaires qui vont venir travailler en centre d'hébergement. Pas tout de suite comme préposés aux bénéficiaires, à ce que je peux en comprendre, parce qu'ils vont d'abord être ce qu'on appelle des aides de service, avant de devenir des préposés aux bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils vont être des soutiens aux préposés avant de compléter leur formation. Alors, c'est un apport qui est nécessaire parce qu'il a toujours manqué de préposés aux bénéficiaires dans les centres d'hébergement. Pour une raison simple, c'est que le niveau requis d'assistance des personnes âgées dans les centres d'hébergement est de plus en plus élevé parce que les personnes qui sont accitées dans les centres d'hébergement sont de plus en plus en perte d'autonomie. Le nombre de lits en centre d'hébergement ne s'accroît pas à la vitesse du vieillissement de la population. Dans ce cadre-là, il y a une inégalité. Le nombre de lits stagne, mais le vieillissement de la population augmente, ce qui veut dire que, dans le fond, les personnes accueillies en centre d'hébergement sont de plus en plus en perte d'autonomie, en lourde perte d'autonomie. Et donc, le travail des préposés qui sont, dans le fond, au chevet des aînés, est de plus en plus lourd, de plus en plus demandant en termes de physique, en termes de déplacement, et en termes aussi psychologiques, inévitablement. Alors, la nouvelle cohorte de préposés va bien combler de besoins, mais partiellement, parce qu'on sait très bien qu'avec la COVID, beaucoup de préposés ont quitté, et qu'il y avait déjà, même avant la COVID, un taux de rétention des préposés extrêmement faible.
On va parler des solutions d'avenir après la pièce musicale qui s'appelle « Viens me voir à l'hôpital » de Simon Kearney.
Viens me voir à l'hôpital, il y a du sang dans mes veines qui peut pas choisir un cœur. J'ai avalé toutes les ondes qui changent mon micro-monde en ce que je connais même pas. Faut pas aller loin pour se perdre. Faut pas aller loin pour se perdre. Faut pas aller loin pour se perdre. Un bocal, la nuit une salle d'attente, mon lit comme un désert. Viens me voir à l'hôpital, y'a du sang dans tes veines, qui pourrait choisir un cœur. Faut pas aller loin pour se perdre. Faut pas aller loin pour se perdre.
C'était « Viens me voir à l'hôpital » de Simon Kearney. Nous sommes avec François Aubry pour parler de la situation dans les CHSLD avec son livre « Les organisations de soins de longue durée » qui est un collectif. Monsieur Aubry, il y a un chapitre qui parle de la qualité de vie en résidence avec le vêtement adapté. De quoi parle-t-on exactement?
Alors, c'est un chapitre qui porte sur un vêtement qui est destiné donc aux résidents et qui vise à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plus grande qualité des pratiques de la part des intervenants auprès de ces résidents-là parce que on se rend compte qu'il y a parfois, et c'est un peu ça le sens de ce chapitre-là, des aménagements à développer pour faire en sorte que le milieu de travail et le milieu de vie puissent être véritablement bien se croiser. On sait que le centre d'hébergement doit rester un milieu de vie, c'est l'ordonnance de la part du ministère qui est donnée, mais il y a aussi tout un enjeu à ce que le milieu de le centre d'hébergement soit aussi un milieu de travail, et donc le vêtement adapté commercial, là, est un vêtement qui vient, dans le fond, donner une solution de confort aux résidents, mais également permettre aux travailleurs, notamment aux préposés aux bénéficiaires, qui doivent faire beaucoup de déplacements avec cette clientèle-là, de pouvoir travailler adéquatement. Donc, c'est comme une sorte de chapitre du livre qui vient documenter cette espèce de tension permanente qu'il y a dans les centres d'hébergement, entre milieu de vie, milieu de travail et milieu de soins, évidemment.
Mais quand on parle concrètement, là, qu'est-ce que c'est un vêtement adapté?
C'est un vêtement adapté. Alors, ça s'appelle un VAC, vêtement adapté commercial. C'est un vêtement qui est donné à un résident pour faire en sorte qu'on puisse vraiment le manier les résidents de la meilleure manière facile en termes de déshabillage et d'habillage. Donc, faire en sorte qu'on puisse se déshabiller très simplement et l'habiller plus simplement. C'est une manière de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un certain niveau de confort pour la personne, pour son bien-être, mais en même temps un niveau d'efficacité des pratiques plus important pour les personnes qui travaillent avec ces gens-là.
Vous avez également un chapitre là, qui porte sur pour une meilleure gestion des organisations, où vous citez là, beaucoup d'approches sur la culture du changement, mais que malheureusement, on semble observer, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui aient des diplômes de deuxième cycle en gestion, il semble que entre les volontés et la réalité, il y a un écart.
Oui, alors ça, c'est un problème majeur et c'était une des raisons aussi de l'ouvrage. De documenter les problématiques de gestion dans ces milieux-là. Ce qu'on se rend compte finalement, c'est que les organisations de soins de longue durée, de manière générale, vivent une tension permanente à la qualité. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être de plus en plus de qualité, offrir des services de qualité. Ils sont scrutés par différentes instances parapubliques comme Agrément Canada. Si vous vous traînez par exemple devant un centre d'hébergement, si vous marchez devant un centre, souvent vous allez voir des drapeaux qui flottent à l'entrée auprès des portes. Ces drapeaux-là, souvent, c'est écrit Agrément Canada, c'est-à-dire, dans le fond, il y a eu une évaluation positive pour dire, genre, on est agréé, on a atteint des objectifs de qualité supérieurs. Bon, ça rentre en contradiction avec toutes les critiques qui sont données par les proches aidants, les familles, par les travailleurs, par également les syndicats, et qui viennent émettre des doutes sur la qualité des services et des soins qu'ils ont donnés de manière générale. Il ne s'agit pas de faire quand même une généralisation, mais de dire que dans certains cas, il peut y avoir des doutes qui peuvent être émis à juste droit. Est-ce qu'on dit, nous, d'une certaine manière, c'est qu'il y a un enjeu de gestion au sein même des organisations de travail. Énormément d'énergie est donnée par les gestionnaires pour atteindre des normes de qualité qui sont, selon nous, déconnectées de la réalité pratique de travail, notamment des préposés. Il y a une déconnexion qui se produit là. Les objectifs à atteindre par les gestionnaires, pour lesquels ils sont d'ailleurs tenus de respecter, ne sont pas du tout en adéquation avec ce que réclament les préposés en termes de marge de manœuvre, en termes de pratique, en termes même de besoins essentiels, c'est-à-dire le nombre de débarbouillettes sur l'étage, le nombre de couches d'incontinence. Il y a un décalage qui se produit là, et nous, ce qu'on dit, en tout cas dans ce chapitre-là, c'est qu'il faudrait tourner davantage les gestionnaires, non pas vers l'extérieur, pour répondre à des exigences extérieures, mais davantage vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les ressources actuelles des organisations. Petite parenthèse pour finir sur ce point. Le Premier ministre Trudeau souhaite, dans le fond, imposer des normes de qualité fédérale.
D'accord.
Ça produit actuellement toute une discorde, évidemment, parce que la santé est une priorité
compétence,
une nouvelle provinciale. Donc, M. Legault n'est pas d'accord, mais il est certain que là, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'au niveau du fédéral, on impose à l'ensemble des centres d'hébergement des normes de qualité. Et nous, ce qu'on dit, d'une certaine manière, ça ne sert à rien de rajouter des normes de qualité qui existent déjà, au-delà même, d'ailleurs, du conflit entre fédéral et provincial. Ce qu'il faut, c'est davantage donner les moyens aux gestionnaires, notamment de proximité, de soutenir leurs équipes de terrain au plus près des résidents, c'est vraiment ça qui est la priorité.
Pour les dernières minutes qui nous restent ensemble, j'ai envie justement de sortir du Québec et du Canada et d'aller plutôt en France. Oui. Vous nous disiez l'équivalent sont des EHPAD et il semble avoir une innovation dans les soins palliatifs là, qui pourrait nous inspirer?
Oui, un de nos auteurs, là, Florent Chopin, a écrit un article sur les soins palliatifs. Alors, ce n'est pas tellement une innovation dans les soins palliatifs, c'est juste que de dire que, dans le fond, il doit y avoir une intégration plus adéquate des soins palliatifs dans les centres d'hébergement qu'on appelle les EHPAD en France, et que là, beaucoup de médecins, puis aussi de groupes d'associations de défense de droits des personnes, ont travaillé à faire en sorte que les soins palliatifs soient directement intégrés dans ces milieux, mais aussi à domicile, hein, évidemment. Et notamment en faisant en sorte qu'on médicalise davantage les soins palliatifs, ce qui n'a pas été le cas en France, davantage au Québec, et puis qu'on s'interroge aussi sur une question éthique de plus grande ampleur, c'est-à-dire on vit de plus en plus longtemps dans les centres d'hébergement. On vit la durée de vie des personnes en centre d'hébergement n'augmente pas, mais les personnes sont de plus en plus âgées. Mm-hmm. Et dans le fond, pour quelle qualité de vie?
Oui.
Donc c'est toute une question que cet auteur-là se pose en se posant la question de savoir comment les soins palliatifs se sont développés, puis aussi comment l'aide médicale à mourir, comme on pourrait le dire au Québec, oui, pourrait être acceptée plus facilement dans ces milieux-là.
Ben, c'est là que j'allais vous lancer un petit peu dans les deux minutes qui nous restent, parce que je vais être très franche, moi quand j'ai vu cette situation-là, j'ai dit à mes fils... dépendamment de comment sera la législation à ce moment-là. Mais oui, c'est une décision que je voudrais prendre pour leur éviter de vivre ça.
D'éviter de vivre en centre d'hébergement, voulez-vous dire?
Oui, mais dans le sens que si je ne suis plus capable de reconnaître mes fils, si je ne suis capable de m'alimenter moi-même, etc., moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas.
Oui, tout à fait. Ben, c'est une question éthique majeure, hein, oui, qui se pose... pour l'ensemble des, pour une grande partie en tout cas des personnes certainement qui rentrent en centre d'hébergement. Toutes les personnes en centre d'hébergement ne souffrent pas de problématiques de démence, mais mm-hmm, beaucoup évidemment de problèmes de perte d'autonomie quand même assez général. Et les proches aidants, effectivement, les familles sont pris avec aussi une lourdeur de devoir soutenir ces personnes-là dans les centres d'hébergement. Donc ça, ce sont des questions éthiques qui demeurent, pour lesquelles on a peu écrit dans l'ouvrage, mais qui vont devoir être réfléchies à l'avenir, parce que certainement ça pose des enjeux majeurs en termes de choix, de décision à intégrer un centre d'hébergement ou ne pas l'intégrer. On sait que les personnes qui sont intégrées dans les centres d'hébergement actuellement, c'est les personnes pour lesquelles on n'a pas d'autre choix que celle-là.
Oui.
Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on a droit à l'aide médicale à mourir si on rentre dans un centre d'hébergement. Il y a un gap médical majeur ici qui existe, mais il y a des questions éthiques à l'idée de rentrer et de vivre dans un centre d'hébergement actuellement, compte tenu de la qualité, variable, mais parfois médiocre quand même.
Monsieur Aubry, on va devoir reprendre cette discussion-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, je vous remercie. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Je remercie notre invité François Aubry pour nous parler de la situation dans les CHSLD. Si vous avez envie d'avoir une perspective complètement différente de cette situation-là, je vous invite à écouter nos épisodes précédents, soit celui du 21 juillet et du 18 août. Nous avons reçu Mélissa Plante, qui travaille justement en CHSLD et qui est de la nouvelle génération. Donc, c'est intéressant là, d'avoir sa perspective à elle. On peut l'entendre sur canalem.vuesetvoix.com. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez entendre toutes nos émissions, ainsi que sur Spotify, Apple Play, Apple Balado et Google Play Music. Alors, pour introduire ce deuxième bloc où nous allons parler des saisons, j'ai décidé de vous offrir une pièce qui est en fait faite par un chansonnier qui habituellement fait des chansons pour enfants, Pierre Lozère, mais je trouvais que cette chanson-là, elle était vraiment intemporelle. Et comme on le dit dans Tintin, elle est pour les 7 à 77 ans. Donc voici l'automne.
Thank you. revient avec ses brouillards du matin. Les feuilles qui tombent s'amoncellent, couvrant les cours et les marelles. Voici l'automne, belle saison qui entre en scène. C'est le retour des champignons sous les grands chênes. Voici l'automne qui revient avec ses brouillards du matin. Les feuilles qui tombent s'amoncellent, couvrant les cours et les marelles. L'été s'en va discrètement, quitte son règne dans les sous-bois, tombent les glands et les châtaignes. Voici l'automne qui revient avec ses brouillards du matin. Les feuilles qui tombent s'amoncellent, couvrant les cours et les marelles.
C'était Pierre Lauzère, un auteur pour enfants qui fait de la musique donc jeunesse avec la pièce L'automne. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, en grande période de stress, parfois, j'aime ça écouter des petits bonhommes, des films animés. On dirait que, je ne sais pas, ça me rappelle quand mon fils était petit, puis il mettait sa petite joue collée contre la mienne, puis mon Dieu, que c'était donc un bel espace bulle. Alors, c'est ça, j'avais envie de vous offrir un petit peu de ce réconfort d'enfance. Mm. C'est joli, hein?
Ah oui! Ça fait la saison pour!
Oui, hein, tout à fait! Alors, la voix que vous entendez est celle de Mitsiko Miller, que nous avions reçue le 8... Quoique, c'est pas mal le temps, hein? On est dans les mois
oui,
en bref. Donc, Mitsiko, on vous avait reçu pour discuter du thème « Exister à travers les âges ». C'était le 8 septembre, dernier 8 septembre. Mais voyons, je suis vraiment due pour une douzaine d'huîtres.
Oui.
Et là, étant moi grande fan de rituels, autrice, tout comme vous, j'avais beaucoup aimé votre intervention là, qui était à la fois historique et philosophique. Donc, ben c'est ça, j'ai décidé de vous réinviter pour vous lancer sur ce passage des saisons qui est vraiment, là, qui a évolué avec, par exemple, l'électricité qui est maintenant parmi nous. Donc, comment vivent les saisons, là? Comment on vivait les saisons dans le passé?
Oui, en fait, c'est très intéressant parce que le chanteur qui... de tantôt, il s'appelle Lozère. Et je voulais parler de la Lozère. Mmh. Quand j'étais... donc, la Lozère, c'est vraiment dans la région des Cévennes, qui sont des montagnes dans le massif central de la France. Puis, j'ai été là-bas. C'est comme retourner en 1200. Mmh. Sérieusement, il y a des maisons qui datent de cette époque-là. Il y a à peine d'électricité, il y a des brebis partout. Mmh. On vit comme dans l'ancien temps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'écologistes qui s'installent là pour vivre au fil des saisons. Et ce qui m'a frappée là-bas, c'est que tout est plus lent.
Ouais.
On suit le rythme. Donc, chaque saison a son rythme. Là, nous rentrons dans la saison automnale qui est vraiment un repli sur soi. On a vraiment célébré, ramassé tous les fruits et les légumes. Maintenant, on récolte et c'est le temps de se reposer. Et l'hiver, c'est vraiment comme les ours, hein, oui. Quelque part là-dedans. Qu'est-ce qu'un paysan aurait fait, par exemple, au Moyen-Âge? Là, il serait en train de récolter, probablement à la fin de la récolte, fête, un rituel pour vraiment mettre, vraiment célébrer ce moment. Et ensuite, on se repose. On se repose, on ramasse les graines tranquillement, on répare les machines ou le matériel nécessaire pour recommencer au printemps. Mais voilà, c'était une période de dormance. Et tout ça a changé, en fait, avec l'avènement de l'électricité. Vous devinez bien.
Oui, ben effectivement, là, on pouvait prolonger nos soirées tout simplement en ayant un doigt sur un interrupteur.
Exact. Puis, en fait, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé, en fait, le fait de suivre la rotation du soleil, donc de se lever lorsque le soleil rentre à l'est et de se coucher relativement peu de temps après que le soleil, lui aussi, se couche, on était comme rythmé. On était rythmé aux rotations du soleil. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Mm. À quelque part là-dedans, c'est comme si la vie crée un contenant doux qu'on suit. Et là, tout d'un coup, avec la venue de l'électricité, on n'a plus ce rythme, cette connexion avec la Terre qui nous permet de réguler notre corps, réguler aussi notre cœur en fonction des saisons. Donc, ça a emmené un empressement pour certaines personnes. Et là, je lisais un article sur l'ère numérique, vraiment, oui. Où l'ère numérique fait en sorte qu'on se couche encore plus tard, parce qu'il y a la TV, il y a la Netflix, il y a les réseaux sociaux, il y a l'article qu'on n'a pas pu lire tôt le matin, qu'on lit peut-être un peu plus tard. Et donc, de plus en plus, on se détache du rythme de la Terre.
Puis là, justement, les lumières d'antan là, qu'on allumait et tout ça, les réverbères et toute cette notion-là de cocon confort, c'est rendu la lumière bleue de nos téléphones.
Exact. Et donc, encore une fois, on n'est plus en syntonie avec les rythmes de la Terre. Et donc, on ne sait pas toujours comment s'organiser, comment justement s'habiller en fonction, moralement, psychiquement, comment être en fonction des saisons que nous vivons. L'automne, c'est vraiment, on récolte, ensuite on se repose. Si on suit, on allume la lumière, on ouvre nos écrans et qu'on vit dans un lieu où il y a beaucoup de béton, on ne sent pas tout ce que la nature nous prépare à vivre tranquillement.
C'est un peu ça le mouvement slow, là.
Exactement.
C'est un peu un appel à plus de lenteur et plus d'adéquation avec les rythmes de la nature.
Tout à fait. Puis en fait, c'est un mouvement qui est né dans les années 80 en réaction à cette nourriture qui n'est plus nourriture, ce rythme de vie qui n'est plus une vie. Comment on peut vraiment épouser le temps qui est là, épouser les saisons, retrouver et avec délice, au fond, les fruits et les légumes et les produits de saison, et vraiment s'adapter au rythme de la Terre encore une fois pour, en quelque sorte, retrouver un équilibre psychique, physique et moral.
Comment on pourrait mettre Mitiko plus d'automne dans notre vie?
C'est le temps des courges, c'est le temps des bonnes soupes, ou vraiment comme cette pièce de musique que nous avons entendue, il réconforte, apporte chaleur. Et donc, au fond, je pense que, comme vous avez mentionné tantôt les rituels, c'est le temps peut-être de réclamer des rituels où on vient, nous, vraiment s'accorder aux saisons et donner un rythme. Donc, peut-être un rituel pour l'automne, nous, on le connaît sous l'Halloween. Mm-hmm. Et vraiment se dire, OK, c'est le temps de sortir, vraiment les couvertes. C'est le temps de ralentir et de vraiment aller chercher des livres à la bibliothèque, même si on va les chercher de manière virtuelle. S'installer avec une bonne tisane et profiter de cette saison après avoir vraiment couru, été dehors durant l'été. Et bien là, se dire, OK, là, notre corps, les journées se ralentissent. Pourquoi pas épouser ce rythme-là?
Mais en fait, c'est que moi, personnellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a cet avènement-là de la saison qui nous amène vers ça. Mais là, on dirait qu'avec la pandémie, on est comme obligé de rentrer dans un automne. Et même quand il y a eu ça au printemps, alors qu'on voulait sortir, on nous imposait quasiment un automne dans un printemps.
C'est étrange. Et n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de pouvoir vraiment se mettre en pyjama devant un Zoom et de vraiment siroter notre tisane et suivre un rythme beaucoup plus lent? Une chose qui me fascine vraiment depuis le début de cette pandémie, c'est comment des clients à moi me disent « Ah, enfin! » J'ai pas à courir dans le métro, dans l'autobus, dans le trafic. J'ai une heure de plus dans ma journée. Mmh. Et cette journée-là, j'en profite pour ralentir, pour regarder, boire mon café en regardant dehors, en prenant le temps de jouer avec mon enfant, en prenant le temps de flatter mon chat ou flatter mon chien et être dans le moment. Alors, moi, je suis très heureuse que nous ayons vécu ces deux saisons.
Oui.
Le printemps, qui est comme un automne, et un automne qui est encore un automne et un véritable automne, où on ralentit, on profite, malgré le fait que pour beaucoup de personnes, c'est difficile aussi.
Oui.
Ça apporte énormément d'inquiétude. Comment se tabler au rythme et, comme dirait une de mes professeurs, au battement de la terre.
Mm-hmm. Vous parliez d'avoir une heure de plus. Ben là, une heure de plus, une heure de moins. Il y a cette heure avancée-là qui s'en vient aussi, là, que franchement, c'est pas évident, là. Moi, je l'anticipe un peu au travail, là, comment amener des sujets inspirants pour nos collaborateurs quand on sait que très rapidement, leur journée de travail se terminera et il fera noir.
Oui. Alors, comment emmener aussi de la chaleur et du soleil? Dans la symbolique, dans certaines symboliques, l'hiver, c'est la plongée à l'intérieur. C'est le moment de faire le tri. C'est le moment de vraiment s'arrêter puis dire, est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il y a du ménage à faire dans ma vie, dans mon travail, dans mes amitiés? Et en fait, l'automne, c'est une préparation à ça. Et comment on peut vivre cette période avec chaleur? Alors moi, je sais que je me suis acheté un palmier pour traverser l'hiver. Et j'ai sorti vraiment mes CD de musique cubaine et de batucada brésilienne pour traverser cette saison avec chaleur et lenteur.
Mitsiko, vous nous parliez des éléments, donc je vais vous offrir une pièce qui parle des éléments, qui s'appelle « Lune d'automne » de Michel Rivard. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec nous.
Merci et bon automne.
Bon automne à vous aussi. Ben, on se retrouvera peut-être en hiver pour poursuivre la conversation.
Tout à fait.
C'est bon.
Au revoir.
Au revoir.
Rouge aux mille draps blancs, le vent les bouge, moi j'ai 8 ans, rue Marquette. À la radio de mes parents, j'entends chanter le fou, chantant l'âme des poètes. Le gros Raymond m'appelle dehors, viens jouer dans le cours, j'ai des pétards, la ruelle s'étire à l'horizon. On va raser les murs, on va sauter les clôtures jusqu'au Japon. lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. L'odeur d'encens dans les églises, comme au trottoir des années grises, mais pas perdue. Avec au cœur la graffinure de la plus belle, de la plus pure, m'a fait des rues. Le gros Raymond qui lâche l'école, ma ligne de vie qui fait la folle frontière fragile entre l'homme et l'amour. J'ai mal à mes 16 ans, j'ai tous les âges en même temps, et je t'attends. Et la lune pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira l'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. Pas la nostalgie, c'est une maîtresse inassouvie aux yeux trop bleus. Je t'emmène en ville à pied, je te fais présent de mon passé si t'en veux. Du haut de la croix du Mont-Royal, je te confie mon idéal et tous mes romans fleuves à venir. Enfants, joueurs de tour, et mes automnes et mes amours à finir. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira l'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir.
Quand j'étais petit, moi, j'avais un pépère. On l'appelait de même parce que si on l'aurait appelé mémé, je serais choqué. Pépère, lui, ça se trouvait être le père de mon père. Et puis, il restait chez nous parce que il avait cassé maison quand mémé a levé les pattes. Et puis, comme mon père disait, il dit des fois, il est bien achalant, mais tant que je serai en vie, il ne sera pas dit que mon vieux père va moisir à l'hospice.
C'était un extrait du monologue Pépère d'Yvon Deschamps, un monologue classique, un monologue fondateur de son travail et un monologue que Yvon Deschamps a écrit alors qu'il était soit au printemps ou à l'été de sa vie. Et puis j'essayais de faire un lien justement entre les deux thèmes de ce 19e épisode d'Au fil du temps. Ce sujet-là des CHSLD et les saisons. Et je me disais qu'en CHSLD, s'y retrouvent des gens qui sont probablement dans la fin de leur hiver. Quand je pense à Yvon Deschamps, je me dis que c'est un jeune hiver. C'est un tout jeune hiver parce que Yvon Deschamps célébrera ses 85 ans très prochainement. Et puis, il a su se mettre à la page, il a su se renouveler en célébrant avec nous ses 85 ans à travers un spectacle qui sera numérique. Un spectacle qui sera en ligne, c'est le vendredi 23 octobre à 19h30 sur une plateforme qui s'appelle YOP. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est YOOP. C'est en fait l'industrie culturelle qui se réinvente là, en ces temps de pandémie pour nous offrir des loisirs, des divertissements qui sont... En fait, on ne peut pas se rassembler, donc on se diversifie comme on le peut. Et je serai à l'écoute de ce spectacle-là pour les 85 ans d'Yvon Deschamps avec d'autres artistes. Je serai seule derrière mon écran, mais je me sentirai connectée à des milliers de personnes qui accepteront ce rendez-vous d'Yvon Deschamps. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est pour soutenir la fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. C'est une fondation qui soutient des programmes dédiés à la jeunesse et à l'accessibilité des loisirs. Alors, vous voyez comment Yvon perpétue tout ce lien intergénérationnel-là qui me tient vraiment à jour. Et ça m'a donné envie d'écouter tout plein de ces épisodes parce que revisite un paquet de thèmes qui sont chers et de faire le point, on est rendu où dans tous ces thèmes-là? Il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai entendue, qui est « faire ses saisons ». Donc, il y a les saisons de notre vie. Moi, j'ai l'impression que, bon, à 51 ans, je suis peut-être, je sais pas, au tout début de l'automne, peut-être, mais sait-on jamais, je ne sais pas quand cette grande aventure-là va se terminer, mais je sens que je suis à l'étape de faire la récolte. La récolte de tout ce que j'ai semé au printemps, de tout ce qui s'est épanoui durant l'été de ma vie. Et oui, j'arrive à une étape où, comme le disait Mitsiko, j'ai envie de douceur, j'ai envie de ce cocon-là avec les gens que j'aime et de récolter tout ce que j'ai pu semer à travers toutes ces années-là. Alors, je vous offre comme ça une pièce de douceur, une pièce de calme et... En fait, la compositrice de cette pièce-là, Alexandra Streliski, au moment où elle a gagné deux Félix au gala de La Disque, elle a fait une invitation au calme et à la douceur. Alors, je vous offre une pièce qui a un titre merveilleux, « Automne » d'Alexandra Streliski. l'automne d'Alexandra Strelitzky. Merci à nos invités de cette 19e émission d'Au fil du temps, François Aubry, professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, chercheur en gériatrie. Le livre qu'il co-dirige s'appelle « Les organisations de soins de longue durée » aux presses de l'Université de Montréal. Merci également à Mitiko Miller, autrice, coach, formatrice en communication consciente, qu'on rejoint à familleharmonie.com. Merci à notre dynamique équipe, Louis Garon, chef d'antenne, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, nous sommes près de l'Halloween, rituel saisonnier s'il en est. On parle avec une spécialiste des films d'horreur, parce que je veux savoir pourquoi les enfants, les ados aiment tant ça, et les peurs qu'on se transmet de façon intergénérationnelle avec Ginette Bureau. Une semaine pleine de douceur.